Je me sens un petit peu comme David qui avait mis l'armure de Saül ce matin. Je suis pas habitué. Un implantant, vous savez, par définition, c'est habitué aux choses très simples. Hein? Et donc, on est souvent dépouillé de toute forme de technologie et tout ça. Mais en tous les cas, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de vous apporter un reflet le plus fidèle possible de ce que Dieu a accompli. L'important, c'est ce qu'il y a dedans, hein? Pas tellement l'emballage. Donc, excusez si jamais j'ai des ratés, là. Ce matin, je vais essayer de vous apporter ce que j'appellerais un combo spirituel. Parce que d'habitude, j'ai un PowerPoint qui me prend à peu près 3 quarts d'heure à présenter. Et j'ai un message qui est à peu près aussi. Fait qu'il y a des églises qui disent, présente ton message, ils vont dire, présente ton PowerPoint. Ce matin, on m'a demandé de présenter les deux. Donc, je vais faire un condensé. Et je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'être, j'espère, le plus compréhensible possible. Et j'espère surtout que ça va être une source d'édification pour vous, parce que c'est le but que je poursuis quand je vais dans les assemblées. Le but, c'est que le Seigneur puisse savoir utiliser la faiblesse de nos moyens pour avoir un ministère envers vous. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse, avant toute chose, se courber devant le Seigneur dans la prière, s'il vous plaît. Notre bon Père céleste, c'est avec simplicité de cœur qu'on vient devant toi ce matin. Premièrement, pour te remercier pour cette grâce, Seigneur, qui est la tienne et qui nous étonne toujours. Notre Dieu, nous te remercions pour toutes tes bontés ce matin. Et puisses-tu être glorifié par ce qui va être apporté, et que le beau nom de Jésus-Christ soit élevé surtout. C'est ce qui nous préoccupe et c'est ce que nous désirons. En ton nom, Jésus. Amen. Donc, l'implantation d'Église, c'est un ministère particulier. C'est comme l'apôtre Paul qui s'était fait un honneur d'annoncer l'Évangile dans des endroits où est-ce que personne n'avait été. Aujourd'hui, est-ce qu'au Québec, encore des endroits où est-ce qu'il n'y a l'Évangile n'a pas été apporté? C'est la grande question. On est dans un monde dit à christianiser, à caractère ou à arrière-plan dans lequel on est christianisé. Mais la réalité, c'est que le véritable Évangile que nous connaissons est très peu connu. Moi, je suis tellement content quand j'entends parler, j'entends dire, mais j'inviterais M. l'abbé à venir en avant, puis c'est pas un homme qui se présente avec une chasuble, mais c'est un pasteur. Ça me réjouit toujours. Je me dis, quelle joie et quel privilège de pouvoir être témoin de cela. Donc, ce matin, j'aimerais quand même qu'on puisse regarder un peu, et je vais essayer d'être le plus conséquent possible et essayer de vous apporter, dans le fond, un reflet de ce qui s'est passé et surtout de ce que Dieu a accompli. Il y a quelque chose qui... Ah, OK, j'étais pas sur le bon bord. Donc, il y a maintenant 8 ans, c'est le temps coule vite, vous savez, quand le Seigneur nous a appelés, on était, nous, à ce moment-là, j'étais pasteur à Saint-Bruno et le Seigneur m'a montré que mon ministère était terminé. Donc, j'avais fait le travail d'implantation à Saint-Bruno. J'ai œuvré là pendant ces 9 ans et demi. Et donc, le Seigneur nous a montré que c'était le temps et qu'on devait, à partir de ce moment-là, se mettre en disponibilité pour implanter une autre œuvre. Et donc, le Seigneur nous a dirigés dans la région de Joliette. Il y avait une moisson qui nous attendait. Il y avait des personnes qui étaient là, mais qu'on ne connaissait pas, évidemment, parce que le propre de l'implantation d'église, c'est que tu es devant rien. Un peu comme le gars avec sa pelle tout à l'heure. Et on est là devant un champ à friche et on ne sait pas trop qu'est-ce qui va sortir de ça. Il sortira-t-il quelque chose de bon? On ne sait pas. Hein? C'est la grâce de Dieu qui nous dit ça. Mais Dieu nous a permis d'établir l'Église dans les fondements, dans l'ombre de notre garage. On a commencé l'Église dans notre garage, plusieurs le savent. Et donc, j'avais acheté la maison pour le garage. Je n'ai pas acheté la maison pour la maison. La maison ne m'intéressait pas, mais j'avais besoin d'une place pour loger ma famille. Mais on a acheté la maison pour le garage parce que c'était nécessaire d'avoir un endroit pour établir l'Église. Et quand j'ai vu ça, le garage double, j'ai dit, ouais, moi, j'ai aucun besoin d'un garage double. J'ai jamais mis mon auto dans un garage, mais j'ai dit, je voyais l'Église. J'ai dit, ça y est. Et en tout cas, faire une histoire courte, c'est là qu'on a commencé. Dieu était vraiment bon. Et après, on a fait un rassemblement. Pendant 10 mois, là, j'ai vraiment fait beaucoup d'activités. Ben, on a fait tout le long qu'on était là, en fait. Mais pendant ces 10 mois-là, on a commencé à chercher des brebis perdues. Vraiment, d'une façon très intensive. Chercher, est-ce qu'il y avait des personnes qui auraient un intérêt pour faire participer, dans le fond, à cette église-là. Et le Seigneur a vraiment suscité. Puis moi, j'avais fait un deal avec le Seigneur. On fait des deals avec le Seigneur. Ça vous arrive-tu de faire un deal? C'est ce que c'est un deal, hein? C'est pas un pickle, là, c'est rien de ça. C'est quelque chose, c'est une entente qu'on fait avec Dieu. Et j'avais dit au Seigneur, quand j'étais à Saint-Bruno encore, j'ai dit au Seigneur, une année dans l'ombre, après ça, on devient public. Fait que je savais pas qu'est-ce qui se passerait. Donc, après 10 mois, on était rendu à peu près 12 croyants, une grosse église. Et puis, j'ai dit, ben, c'est le temps de chercher pour louer un endroit, devenir public. Faut que je tienne ma promesse. Et c'est ce que j'ai commencé à faire, chercher un endroit pour localiser l'Église. Et on avait vu des familles qui ont commencé à se réunir. Et le Seigneur nous a donné, dans peu de temps, il nous a donné un bâtiment extraordinaire qui est un ancien club. Moi, je suis un spécialiste des clubs. Je les transforme, je fais des clubs de nuit pour en faire des clubs de jour. Donc, on les convertit. Et on a un ancien club, le Trotteur, qui était un club western, où est-ce que Willie Lamotte lui-même a chanté, mesdames et messieurs. C'est pas n'importe quoi. Et c'est le lieu de rassemblement. Et Dieu a fait un travail extraordinaire. Il nous a donné un bâtiment. C'était un miracle sur toute la ligne. Ça me prendrait une heure, vous comptez ça. J'ai pas le temps. Et c'est le bâtiment que Dieu nous a donné. C'est évidemment qui est transformé. Et qui est une grande bénédiction. Excusez, le focus est pas bon, là. Mais je sais pas comment arranger ça, mais en tous les cas. Donc, mais c'était vraiment une bénédiction extraordinaire. Et Dieu nous a bénis d'avoir cet endroit-là. Je pense que c'est la photo qui est pas bonne. Donc, je l'ai pris sur l'Internet. Mais à quelque part, c'était vraiment une bénédiction et on a fait plusieurs parties d'activités. On a vraiment travaillé très, très fort. Ça a pris presque 2 ans à rénover le bâtiment. Et ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on avait 9 000 $ pour acheter le bâtiment au début. Juste pour faire une histoire courte. Et le bâtiment était à 200 000 $ au départ. Le Seigneur l'a fait descendre à 125, puis on a dit, j'ai dit à madame, c'est encore trop cher. Je dis à votre bâtiment, je dis, il y a 100 000 $ de rénovation à mettre ici facilement. Finalement, le Seigneur a fait un miracle, on l'a eu pour 75 000 $. Et d'une façon encore plus miraculeuse, d'une façon inattendue, une personne que je connaissais pas du tout a décidé d'envoyer un don. Il nous a donné en tout 75 000 $, ça a payé le bâtiment. On n'avait pas d'argent, on n'avait rien, Dieu a fait des miracles et ça nous a coûté 180 000 $ tout rénover ça, puis après 4 ans, le bâtiment est entièrement payé. Expliquez-moi ça pour un gars qui n'a pas une scène. Le Seigneur a vraiment... Moi, je trouve qu'on a un Dieu qui est généreux, n'est-ce pas? Moi, je trouve que ça vaut la peine d'honorer Dieu, vraiment de l'applaudir, parce que c'est une période qui est excitante. Hein? Ça dépend comment on est fait. Moi, je suis une personne de projet. Et donc, il y avait une conscience de Dieu, la puissance de Dieu, la présence de Dieu qui est là, et dans un temps d'effervescence dans lequel Dieu est en train de bénir. L'évangélisation est à son meilleur et on est en train, dans le fond, de travailler avec le Seigneur. Le Dieu sauveur travaille dans les cœurs et dans les vies. Et on a vu des gens se convertir. On a vu des personnes qui étaient déconnectées, des croyants. Moi, j'appelle ça faire du recyclage des saints. Alors, on a plusieurs saints qui étaient déconnectés, qui étaient vraiment blessés, maganés, tout ça. Puis Dieu a fait une grande chose. Ça n'a pas été sans épreuve. On a été attaqués. Ma femme était très, très malade. Elle a fait une grosse dépression pendant 3 ans. C'est pendant le temps des travaux et tout ça. Et je vais vous dire une chose, ça n'a pas été facile. Et quand ma femme a bien été, ben, c'est merveilleux. C'est moi qui ai tombé. J'ai tombé malade, très malade. Là, 2 ans et demi à peu près, je pensais bien mourir. Sincèrement, j'étais épuisé. J'étais au bout de mes forces. Je ne savais pas qu'est-ce qui était pour arriver avec moi. Et tout ça. Fait que j'ai été obligé d'arrêter 4 mois. Mais par la grâce de Dieu, je suis revenu assez rapidement pour être capable de prendre soin de l'Église, qui avait connu des moments pas faciles et tout ça. Mais le Seigneur était bon. Implanter l'Église, c'est pas facile. Mais Jésus sait, vous savez, parce que c'est lui l'implanteur d'Église. Moi, je suis juste un aide. On est juste comme le pasteur. Il n'est pas le pasteur, c'est Jésus qui est le pasteur de l'Église. On est juste des assistants bergers, nous autres. On est en train d'essayer de faire le travail que Dieu nous confie le plus fidèlement possible. Mais on a vu Dieu rassembler des choses. Actuellement, l'Église, c'est intéressant de voir que l'Église, on a une cellule hispanophone maintenant. On a accueilli un couple missionnaire qui est des Mexicains qui s'occupe de l'évangélisation chez les Atikamekw. Donc, on a 25 personnes qui sont converties sur la réserve actuellement. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on a donné une place à ces gens-là. Et c'est merveilleux de savoir que dans le monde amérindien, il y a une œuvre qui est en train de se faire. Et c'est pas à côté de chez nous, vous savez, c'est à 2h30 de chez nous. Mais il y a les personnes qui travaillent, là, ces missionnaires mexicains sont à cœur là et des gens qui ont répondu à l'appel, des gens qui sont sauvés. Actuellement, l'Église, c'est 51 membres et un peu plus. Il y a 4 qui sont en train de se préparer à devenir membres. Et on a une cellule d'intérêt le dimanche soir où est-ce qu'on a des formations de jeunes chrétiens. On a des baptêmes. Les baptêmes ont eu lieu à Pâques. J'ai eu le privilège de baptiser mon gars l'année passée, ma fille cette année. Il m'en reste juste une. Et notre plus vieux est dans le ministère. Il est en train de se préparer pour le ministère à temps plein. Donc, c'est vraiment des grandes bénédictions. Au niveau des formations, au niveau de l'évangélisation, les cours de E sont dispensés à tous les années. Donc, un monsieur qui a signé à ça, il donne un cours de formation. Moi, je suis abonné à Jubec à vie. Comme implanteur d'aider, vous savez quoi, Jubec, là, c'est un super de bon outil. Et moi, j'ai toujours pris cette décision-là dans ma vie, que si on ne crée pas l'espace pour nos jeunes, on ne peut pas les blâmer de ne pas se développer, n'est-ce pas? Donc, Donc, à ce moment-là, pour moi, Jubec, ça fait partie de la génétique de l'Église. Et je dis aux gens, vous recevez Jubec toujours. Ça fait partie de la réalité. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et moi, je crois que c'est un des beaux outils que Dieu nous a donné. Donc, les ministères sont bien en place. Et malgré tous les hauts et les bas que peut connaître une jeune Église, comme un jeune enfant, on peut voir que le leadership est constitué d'hommes de qualité actuellement. Et c'est pour ça que j'ai considéré m'en aller. Et je crois que c'est à la gloire de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, vous savez. C'est pas Daniel Gagné. Moi, je suis simplement un outil bien ordinaire, un homme tout à fait ordinaire. Et ce qu'on est en train de chercher, c'est la gloire de Dieu. Et je crois que dans la prochaine étape, c'est Jésus-Christ qui va encore faire la différence. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, je bâtirai ton Église. C'est pas nous autres, ça ne nous appartient pas. Et donc, on va lui donner toute la gloire sur ces choses-là. La prochaine étape, le centre, j'ai changé l'appellation, l'Église évangélique baptiste de Ville-Nouvelle de Lanaudière, ça fait partie de l'histoire, mais le futur est là, c'est un centre d'espoir et vie de la Montérégie. La raison est simple, c'est qu'en discutant avec les gens de la région, à Longueuil, qui est juste à côté, c'est une grande région où est-ce que maintenant c'est défendu d'avoir des églises nouvelles. On est en train de... parce que ça paye pas de taxes, parce que c'est pas intéressant, et tout ça. Les gens voient juste les problèmes ou la perte qu'une église peut engendrer. Ils voient pas le côté bénéfique, la présence spirituelle, le côté positif. Mais on travaille avec ça, et donc j'ai décidé de changer l'approche pour avoir... une possibilité d'intervenir comme centre. Et je veux essayer de créer un centre dans lequel il va y avoir une dynamique de vie qui va devenir un centre d'épanouissement spirituel et aussi avec une église évangélique contemporaine qui va être au service de cette région. C'est vraiment le but avec lequel on y va. Ça, c'est presque un monument là-bas. Si vous connaissez l'orange du Lep, il y en a-tu qui en ont déjà bu? N'avez jamais bu? Vous n'avez bu? Ben, c'est bon, hein? C'est très bon. Ça, c'est là où est-ce que l'orange du Lep a pris naissance. C'est un grand bâtiment. C'est comme une grosse orange. Et moi, je trouve ça, c'est un centre familial. Les gens vont là en pyjama pour voir, les jeunes vont là en pyjama pour voir l'orange du Lep. Fait que je trouve que ça ferait un beau bâtiment pour une église, hein. Ça serait original, visible de loin. Ma femme, ça, c'est Chantal. Dans le fond, elle est vraiment visionnaire. Puis dans le fond, je dis à Chantal, ça coûte rien de rêver puis prier. Parce qu'on sait que Dieu est capable de faire des choses qui nous étonnent. Dans la région là-bas, c'est dans le coin de Sainte-Catherine, Dessun, Saint-Constant, Candiac, il y a une héroïne amérindienne, Catherine Iqaluit. Y a-tu qui ont étudié l'histoire du Canada? On se rappelle de ça, hein? Et évidemment, Catherine Iqaluit, qui est devenue, dans le fond, un emblème pour la région. Et pour nous, on aimerait bien mieux que ce soit la croix qui soit l'emblème. Que ce soit Jésus-Christ qui soit là, qu'il soit glorifié à travers de ça. Et je crois que la devise de Catherine Iqaluit était vraiment intéressante. Elle disait ceci, « Qui est-ce qui m'apprendra ce qui est agréable à Dieu afin que je le fasse? » Et on s'en va là dans le but de lui montrer. Elle est morte maintenant, mais montrer aux autres qui suivent. C'est ça qui est notre but, de montrer qu'est-ce que c'est qui est agréable à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on est là si ce n'est pas de montrer aux gens qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Donc, on croit que ça, c'est sa tombe qui est juste à côté de ce petit sanctuaire-là, qui est juste sur le bord de la route, où est-ce que les gens passent fréquemment. Il y a bien des gens qui vont là, une petite église un peu amérindienne et blanche, un peu mélangée en face. C'est à peu près le seul endroit où est-ce que les deux cultures se réconcilient, parce qu'on se rappelle les problèmes avec les Mohawks, on se rappelle le pont Mercy qui a été bloqué. Ça a créé évidemment des blessures dans la société. Ce sont les Iroquois qui sont là. Donc, à ce moment-là, c'est un grand fils, ce sont des anglophones. Mais Dieu n'a pas de barrière au niveau des problèmes, au niveau de la langue. Le Seigneur est capable de faire des miracles. Et je crois que Dieu peut faire fleurir la vie où est-ce que la mort était. Et à partir de ce moment-là, Jésus a dit qu'il est la vie et on croit qu'il est capable encore de faire la différence. Et c'est pour ça qu'on s'en va. Avec cet espoir-là, avec cette croyance-là, que celui, dans le fond, qui va croire en lui va vivre même s'il serait mort. Et que des gens comme cette femme-là, j'étais frappé de voir la dame, elle sortait de l'église, mais elle avait le regard tellement vide. Elle était en train de griller une cigarette sur le balcon. Puis je me disais, pauvre petite madame, il lui manque l'essentiel. Hein? La coquille est là, mais ce qui fait vraiment la vie n'est pas là. Et je trouvais ça intéressant parce que là-bas, une des grandes activités, c'est la pêche sur la glace. Il y avait un gars qui était à genoux en face de son trou. Je me dis, le gars, il prie pour du poisson, ça n'a pas d'allure. Il prie pour du poisson, puis je me dis, ce gars-là, il faut absolument qu'on prie pour lui. Il faut pas juste pour lui. Puis moi, je vois ça, je me dis que c'est un champ d'évangélisation, ça. C'est un endroit où est-ce qu'on peut aller se promener puis parler du Seigneur. Le gars est en train, il est assis à côté de son trou. C'est une bonne place. Il est en train en attente. Il est en attente du poisson. Ben nous autres, on est en attente de Christ. Et notre désir, c'est dans ce milieu-là, qui est un milieu ouvrier, beaucoup de col bleu aussi à travers de ça. Des gens qui sont très actifs, c'est une région qui est en pleine explosion, une région qui grandit de 15% à toutes les années. C'est du monde, ça. Il y a un bassin actuel de 70 000 personnes et plus. Donc, imaginez ça, 15% par année. Il y a de l'ouvrage à faire avant de rattraper ce monde-là, vous savez, puis leur présenter l'Évangile. À Joliette, on a couvert 54 000 foyers. Tu dois dire, tous les foyers de la région, dans les villes principales, puis tout ça, on a commencé l'évangélisation en campagne.